Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Pascal Mallet, curieux de nature, passionné d'histoire et de généalogie, nous propose un nouveau livre, que dis-je, une collection de 4 livres qui constituent les mémoires de Georges Mallet, son père. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors Pascal, nous vous avons déjà reçu il y a un an, à l'automne 2020, alors que vous sortiez votre ouvrage « La Grande Guerre, les poilus de Figeac », ouvrage dense et fort intéressant qui retrace l'histoire des poilus de Figeac. Alors donc l'histoire, je le disais, une passion, une vraie passion pour vous?
Ah oui, pour moi c'est j'y passe beaucoup de temps et en plus de ça, je pense que presque tout le monde devrait s'intéresser à l'histoire, parce que c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui nous permet d'analyser le présent et puis éventuellement d'appréhender autant qu'on peut l'avenir. Et je pense qu'en ce moment, il y a l'histoire qui semble un peu se répéter, donc il est important de regarder en arrière. Mmh.
Alors la collection que vous nous présentez donc aujourd'hui, vous n'en êtes pas l'auteur, mais je dirais, j'ai envie de dire, plutôt le transmetteur.
Oui, tout à fait.
Ça vous plaît, c'est... ça, transmetteur?
Oh oui, tout à
en fait. En
fait,
je ne sais même pas si le mot existe. Hein.
Si
il doit exister.
Dans le terme technique, peut-être. Mais oui, le messager, oui.
Oui, le messager, c'est... oui, voilà.
Le messager, le passeur. Mm-hmm. Hein, voilà. J'ai été habitué dans ma famille avec des parents qui racontaient beaucoup leur jeunesse, enfin leur vie avant que je sois là, avant que je naisse. Et je trouvais toujours ça très très intéressant parce que c'était vivant, c'était la plupart du temps sans nostalgie. Il y avait même des éclats de rire quand il fallait. Et vraiment, j'ai eu des parents qui m'ont formé à m'intéresser au passé et surtout à respecter les gens qui m'ont précédé et qui me constituent.
C'est dans vos gènes?
C'est absolument dans les gènes. J'ai fait un test d'ailleurs génétique et voilà, qui renforce un petit peu l'idée de mes racines.
Donc, vous sortez le premier tome, Un passant du XXe siècle, donc écrit par votre père. Alors, comment votre père en est venu finalement à écrire ses mémoires?
Alors, j'ai trouvé des écrits de mon père dans les années 30. Il écrivait pas mal de choses. Je les ai retrouvés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et puis, l'idée vraiment, pour ses 80 ans, ma sœur et moi, nous lui avions offert un voyage au Canyon du Colorado, enfin dans l'Ouest américain, là-bas. C'était une envie qu'il avait de voir ça avant de mourir. Il me semblait que 80 ans, ça commençait à être temps. Et voilà, donc nous y sommes allés. Et un soir, il a recommencé à parler de sa vie, tout ça. Et on lui a dit, écoute, c'est très bien, très intéressant, mais si tu ne mets pas ça par écrit, il va en rester 10% avec nous, et puis 1% avec nos enfants, et puis plus rien après. Donc il faudrait quand même le mettre par écrit. Alors ça a été un déclic. Et quand on est rentré en France, il s'est mis tout de suite à écrire des pages et des pages et des pages et des pages. On s'est retrouvé avec 800 pages écrites à la main, denses. Et voilà, donc dans un premier temps, on les a publiées, mais à l'usage uniquement de la famille. Et puis tout le monde a dit, mais c'est super, on apprend des choses. On m'a un petit peu poussé d'une certaine manière à le publier. Mmh. Et à le présenter au public.
Mmh. Et votre père, lui, il avait comment dire, exprimé le désir de le faire éditer, de faire éditer ses mémoires?
Alors, après la guerre, donc il avait été prisonnier, évadé. Après la guerre, il avait écrit des textes assez longs en parlant à la troisième personne. Et effectivement, c'était pour en faire un témoignage, pour le publier, puis ça n'a jamais été fait. Donc c'est quelque chose qu'il avait... à quoi il avait pensé. Et par contre, il savait qu'en écrivant à la main, on allait le transcrire sur l'ordinateur. C'est en partie moi qui l'ai fait. Qu'on l'imprimerait. Voilà. Mais il ne savait pas que ça en arriverait à être offert au public, mais je suis sûr que ça lui plairait beaucoup.
Vous avez fait des corrections de son texte original, des petites corrections ?
Alors, des corrections... alors, par rapport au texte original, j'ai enlevé quelques petites allusions très très familiales qui déjà sont un petit peu indiscrètes et n'intéressent personne en dehors de nous. Correction bien sûr de grammaticale, tout ça, enfin avec un correcteur. Voilà, il y avait quelques paragraphes qui se répétaient, mais enfin à 98% c'est son texte. Mmh. C'est pour ça que il est l'auteur de ce livre. Moi, je ne suis que, encore une fois, que le messager.
Et alors, donc, votre père, il a eu une vie extraordinaire.
Oui, je pense, parce que...
Alors d'abord, il est né, je crois qu'on ne l'a pas précisé, hein, excusez-moi, mais il est né en 1912.
Oui,
est décédé en 1999. Voilà, donc effectivement, il a traversé le XXe siècle.
87 ans de bons et loyaux services dans le XXe siècle. Mon père... comment dire, il était dans un milieu modeste, même limite pauvre, enfin d'une certaine pauvreté, mais il a toujours pensé qu'il n'était pas à sa place dans ce milieu, et il a toujours bataillé pour acquérir des connaissances. Il est rentré en apprentissage très tôt, évidemment après le certificat d'études, chez un peintre en porcelaine. Ça a été quand même une chance de ne pas se retrouver, comme beaucoup, sur un chantier.
Ou à l'usine, où
presque tout horizon aurait été bouché. Donc il est rentré dans ce milieu artistique très jeune. Et voilà, ça, il a découvert qu'il avait de l'appétit pour ça, et puis un certain don. Et puis par la suite, il a pris des cours du soir. Il a toujours voulu progresser tout en travaillant, puisqu'il fallait quand même faire.
Il fallait faire tourner la marmite.
Et oui, son père l'avait quasiment abandonné, lui et sa mère. Il était voyageur de commerce et il ne le voyait pas souvent. Et donc, il fallait faire tourner la petite maison. Ma grand-mère travaillait aussi, bien sûr. Et donc, voilà. Mais c'était des... À côté de ça, il a quand même réussi à lire et à prendre des cours du soir et à progresser.
Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.
Donc il a été fait prisonnier pendant la guerre.
Oui, hein, comme
beaucoup de personnes, c'est ça.
Comme pas mal de gens, 1,8 million. Et puis là aussi, il a été fait prisonnier en France. Il a été emmené près de Berlin dans un petit commando qui dépendait du Stalag 3A. Et puis là, quand il écrit, alors ça, on le voit dans le tome 2, hein, qui va d'ailleurs
bientôt paraître.
Oui, hein. il est à l'impression là. Il va être disponible en même temps que le 1. Et là, c'est pareil dans ce dans cette communauté, y a des privations surtout, mais il s'emmerde. Voilà. Pour le dire simplement, il voit pas trop l'intérêt de rester là, et il va faire le projet de s'évader. Et ça, c'est dans le tome 2, mais l'évasion elle-même sera dans le tome 3.
Non, on va pas non plus tout divulguer. Hein.
Non, voilà. Mais enfin bon, si je suis là, on pense bien qu'il a réussi.
Il a bien réussi à s'évader quand même. Oui. Ah là là. Et après, qu'est-ce qu'il a fait comme métier après la guerre ?
Alors après, bah, il a continué dans la voie artistique.
Ouais. Mmh. Il est devenu artiste peintre, c'est ça ?
Alors pas tout de suite. Il peignait bien sûr, mais sans en faire un métier. Il y a des très belles aquarelles de lui. Il peignait à l'huile. Et il avait surtout auprès d'un artiste russe. Venu après la révolution russe, justement, et qui avait un système de peinture au cornet.
Ah oui, ah bah, c'est tombé bien, c'est une question que je voulais vous poser, parce que j'ai cherché quand même un petit peu, et j'ai vu qu'il avait donc mis au point la peinture dite au cornet.
Alors
qu'est-ce que c'est que cette peinture au cornet ?
Alors, c'est pas tout à fait lui qui l'a mis au point. Il a beaucoup utilisé. Ce sont effectivement, c'était une tradition russe que j'ai d'ailleurs vue en Thaïlande aussi il y a pas très longtemps. En fait, on fait comme un cornet avec du papier calque, un cornet comme un cornet de frites, on va dire. On met de la peinture à l'intérieur de ce cornet, on coupe en angle légèrement le bout, et par la pression de la main, on fait couler de cette peinture, qui doit être une peinture assez pâteuse.
Mm-hmm. Hein. Oui.
Et donc, il arrivait à faire... Bon, il arrivait à écrire avec, par exemple, à signer avec. Les aplats, il mettait de la peinture et puis il les étalait avec le pouce. Voilà, et ça a été vraiment le... Alors, ce qu'il a quand même mis au point, c'est de mélanger des colorants avec un vernis, au lieu de le faire avec un diluant, et de faire en sorte que ça séchait très vite. Ça séchait en quelques minutes, presque, au lieu de plusieurs jours à l'air libre avec une peinture normale. Et donc, voilà, il a au moins apporté ça à la technique.
Mm-hmm.
Et à partir de là, il a fait des cravates peintes, qui a été quelque chose qui a été très, très en vogue dans les années fin 40, début 50. C'était vraiment beaucoup. Donc, il y avait des douzaines et des douzaines de cravates qui sortaient de la maison.
D'accord.
Moi, je me souviens, j'étais tout petit, mais je me souviens de cette époque un peu. Ouais.
Mmh.
Et donc, il partait, ma mère allait livrer à Paris. Voilà, c'était...
Voilà, parce que vous étiez en région parisienne.
Oui, oui, hein, on était ça, à 25 km de Paris, dans la Somme, parce qu'il y avait mis les Sommes.
Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter... L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir. Au ciel de Paris.
Alors, j'ai vu aussi qu'il était maire. Il est devenu maire de... C'était un village, une ville?
Oui, c'était un petit village. Alors, ça s'appelle Longpont-sur-Orge.
Mm-hmm.
C'est un petit peu à l'écart de la Nationale 20, du côté de Montlhéry-Arpajon, enfin, pour ceux qui connaissent.
Mm-hmm.
Commune très, très rurale. Complètement, quand on y est arrivé, quand ils sont arrivés en 1950, complètement à l'écart des grandes métropoles qu'il pouvait y avoir à côté. Ils ont trouvé une maison à ce moment-là, et puis sans savoir vraiment qu'ils habitaient Longpont, puisqu'on habitait dans un hameau qui était assez important, et voilà, tant qu'il n'a pas eu besoin d'aller à la mairie. Et puis un jour, il ne s'intéressait pas plus que ça à la vie de la commune. Il travaille beaucoup. Et puis un jour, on a vu des gens arriver à la grille, lui proposer d'être sur une liste. On ne parlait pas de droite et de gauche. Hein, Enfin, si on en parlait, mais pas dans des petits villages comme ça, c'était les curés et les autres. C'était un petit peu la même coupure, mais beaucoup plus vive, hein, quand même.
Donc, Camillo ?
Oh oui, on pourrait dire, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Mais c'était très, très, très tranché. Mm-hmm. Donc voilà, il s'est retrouvé pas sur la liste des curés. Et voilà. Et puis au bout de 2 ans, il y a eu un problème avec le maire. C'est un gros problème d'ailleurs, parce qu'il est mort, le pauvre. Et comme il était beaucoup en bisbille avec le premier adjoint, et ça j'en parlerai dans le dernier livre, il a fait promettre à mon père sur son lit de mort de pas laisser le premier adjoint prendre les rênes et de se présenter.
D'accord. Alors,
pourquoi mon père s'est retrouvé maire à son corps défendant? Mais il a beaucoup aimé. Ça s'est mal terminé, mais ça, on en parlera plus tard.
Dans le dernier tome, peut-être.
Et oui, il faudra attendre un peu.
Voilà, parce que le premier tome, je ne sais plus si on l'a précisé ou sinon on le reprécise. Donc, c'est l'histoire de Georges Mallet de 1912, donc sa naissance, jusqu'à 1938, juste avant la guerre. Donc, le deuxième tome, c'est la
1938,
guerre.
1938, puisque 1938, peu de gens s'en rappellent d'après les échos que j'ai eus. Il y a eu une première mobilisation, 15 jours, c'est-à-dire quand les Allemands ont investi la région des Sudètes en Tchécoslovaquie, il y a eu une mobilisation générale et toute l'armée française s'est retrouvée dans les casernes. Ça a duré jusqu'aux accords de Munich, hein, tout le monde est rentré chez soi. Jusqu'à la déclaration de guerre de septembre 1939.
Oui, c'était la répétition.
Ah oui, c'était effectivement. Mmh. Si on avait. Bon,
on ne va pas refaire l'histoire.
Non, on ne va pas refaire l'histoire. Mais enfin,
bon, des fois, on aimerait bien la refaire, ceci dit.
Ah, ceci dit, 38-39, c'est vrai qu'il y a des choses à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire, oui, malheureusement.
Oui.
Bon, j'aimerais lire un extrait de l'avant-propos.
Ah, si vous voulez, bien sûr, avec plaisir.
Donc, de votre papa, donc c'est un extrait. Plus tard, peut-être beaucoup plus tard, vos descendants trouveront dans ces lignes, si ces écrits subsistent, ce que moi-même j'aurais aimé trouver pour connaître la vie de nos ancêtres. Aucun n'a songé, hélas, à nous laisser le moindre texte sur ce qu'il a vécu. J'imagine pourtant avec nostalgie un de nos aïeux d'il y a 300 ans, penché sur son grimoire et écrivant sa vie à la lueur d'une chandelle. Jour après jour, noircissant son parchemin, il n'aurait pas douté que les termes qu'il employait pour raconter des faits journaliers seraient encore compréhensibles par sa descendance, ceux d'hier ayant pour lui le même sens et le même parfum. Quel trésor aurions-nous alors si nous possédions ce livre de raison de notre famille que les générations suivantes pourraient lire elles aussi ? Un commentaire ?
Oh, ben, je suis tout à fait d'accord, hein, évidemment, avec ça. C'est vrai que y a un ami, l'autre, il y a quelque temps, qui m'a fait lire un livre de raison, justement, de sa famille. C'est passionnant. Enfin, ce sont des mémoires. Au départ, c'était des livres de contes, mais où les gens mettaient un petit peu l'état des récoltes, le temps qu'ils faisaient ou ce qui pouvait leur arriver. Enfin, toutes sortes de... c'est évidemment passionnant.
Est-ce que vous pensez que cette transmission de souvenirs, est-ce qu'on peut la comparer à une transmission de valeurs, des valeurs d'une famille ou des valeurs d'une époque aussi?
Ah oui, oui, ça, absolument. Parce que moi, je suis... persuadé que, bon, pour parler simplement de moi, hein, la personne que je connais à peu près le mieux, je suis issu de ces valeurs, entre autres des valeurs de travail. Et pourtant, j'ai été très réticent. Hein, je suis un 68-art, donc ça a été un sujet de désaccord. Mais oui, bien sûr, les valeurs de travail, d'honnêteté, toutes ces valeurs qui sont indispensables. Quoi. Et ça, c'est non seulement lui qui me les a transmises, mais il lui-même transmettait tout ce qu'il avait amené avec lui. Quoi. Donc, oui, c'est...
Est-ce que vous voudriez nous parler d'un passage du premier tome ?
Eh bien oui.
Donc il y a c'est un chapitre qui s'intitule d'ailleurs oui, le spiritisme.
Absolument, mmh. c'est entre autres parmi les choses qui l'ont intéressé, la famille est tombée un jour dans la mode, parce que c'était une mode du spiritisme. Mmh. Hein. C'est-à-dire que les gens faisaient tourner des tables, il y en avait qui étaient médiums d'une manière ou autre. Et c'est quelque chose qui est devenu très important. Donc mon père n'était pas croyant au niveau religieux, mais il croyait en l'au-delà et en une sorte de réincarnation qui était possible. Donc vraiment, ça l'a beaucoup intéressé. Et lui-même, par la suite, alors ça on en parlera plus tard, est devenu médium. Il faisait de ce qu'on appelle de l'écriture automatique, c'est-à-dire une écriture liée, complètement liée. Et voilà, il parlait en même temps, donc on avait des soirées comme ça avec un messager là aussi. Voilà, moi je n'en dirai rien de plus. Je sais que ça m'impressionnait beaucoup.
Ah oui, donc vous en avez fait.
J'en ai pas fait.
Vous en avez vu.
J'ai assisté.
Vous avez assisté.
J'ai assisté.
D'accord.
Et c'est effectivement très très intéressant. J'ai gardé les textes d'ailleurs. C'est intéressant surtout pour connaître la personne qui le fait. Voilà. Et en tout cas, c'est assez. Symbolique de sa recherche de tout un peu quoi. Mmh, voilà. Je crois qu'il y croyait, beaucoup moins à la fin.
À la fin.
Mmh. Oui. Mmh. Je crois que.
Mais c'est vrai qu'effectivement, ça a été aussi une mode à une époque. C'était quand même le spiritisme, ça a été une grande mode à un moment donné. Bon, il a essayé.
Voilà, il a essayé.
Il a essayé beaucoup de choses. Hein.
Et puis il a réussi parce qu'il y a des communications qui sont, quand on les relit, qui sont très poétiques, très très intéressantes. Mm-hmm. Voilà, donc un petit extrait.
Voilà, un court extrait.
Du spiritisme.
Vos ouvrages, nous pourrons les trouver où? Donc ils sortent le premier tome, c'est
alors
ça?
Le premier et le 2.
Les deux premiers. Donc ils sortent le 4 décembre.
Voilà, je serai au livre en fête pour les présenter et pour les signer éventuellement à ceux qui voudront. Évidemment en souvenir de mon père, parce que je ne suis pas l'auteur réel. Et puis le troisième, donc qui couvre... son évasion, passage en zone libre, et puis pas mal de choses intéressantes dans le premier trimestre 2022. Mmh. Et puis le quatrième, avant le mois de juin, en tout cas dans le premier trimestre. Ouais. Voilà.
Donc là, pour le moment, on pourra les trouver donc, dans les librairies Figeacoise.
Oui, livres en fête principalement.
Hein, voilà. Ouais. Donc, il faut savoir aussi que donc, vous êtes votre propre éditeur.
Tout à fait.
Hein, les éditions Caléato. Donc pour le moment, on les trouvera dans les librairies Figeacoise essentiellement.
Oui, c'est pas un livre Figeacois, hein, on est d'accord. Oui. Mon père était notre famille vient du Nord, la famille de mon père en tout cas vient du Nord. Donc c'est un ouvrage qui peut intéresser tout le monde. Mmh. Pas spécialement les Figeacois, mais il y a rien sur Figeac. Je préfère le dire.
Oui, mais c'est pas grave, il n'y a pas que Figeac.
Enfin, si, il y a le Figeac apparaît, c'est l'adresse de l'éditeur.
Voilà, c'est ça. Non, oui, alors donc il y a votre adresse, hein, c'est bien
oui,
ça.
Tout à fait, et mon mail, je crois, oui.
Et donc, si on veut se procurer cet ouvrage et qu'on n'est pas sur le Figeacois, donc on vous le demande?
Absolument.
On peut vous le
commander ? Absolument.
Donc, on vous le commande à l'adresse mail.
C'est édition-caléato.
Oui.
Édition au pluriel, caléato sans accent, bien sûr, avec un K, @orange.fr.
Voilà. Et oui. Voilà. Qui sait ? Peut-être qu'on va entendre votre interview à Stockholm. Non, j'exagère. Hein. Je plaisante.
Mais pourquoi pas ?
Mais pourquoi pas ?
Il y a talent svenska.
Bon, eh bien, Pascal, merci beaucoup.
Merci.
On est toujours ravis de vous retrouver dans les studios d'Antenne Doc. Et puis à bientôt.
Ah ben oui,
pour un autre ouvrage.
Il y a d'autres livres.
Ah oui, alors c'est quoi vos projets, justement?
Quelque chose qui paraîtra tout début 2022, c'est un livre sur Pierre Dac.
Ah.
Voilà. J'ai des révélations faire.
Vous avez des révélations
sur Pierre Dac. Je ne peux pas en dire plus.
Vous allez parler de Francis Blanche aussi un petit peu?
Non, c'était avant. Là aussi, ça touche à la guerre de 14.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.